Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Justine Moussa Oponde.
Pétition contre le président de l'Assemblée nationale, plus de 130 signatures déjà recueillies. Les députés de l'Union sacrée accusent le FCC de vouloir empêcher le vote de la loi électorale, affirmation rejetée par le Front commun pour le Congo. Offensive depuis hier des FARDC et des UPDF contre les bastions des ADF derrière les grottes du Mont Oyo au sud d'Irumu, d'où ces rebelles planifient toutes les attaques. Le porte-parole de l'armée en Ituri demande à la population de se mettre en lieu sûr, loin de la zone des opérations. Notre invité, c'est l'astronome sénégalais Maram Kerr. Il est l'un des orateurs de la 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies ouverte hier lundi à Kinshasa. Bonjour à tous. Regain du climat de tension et de méfiance au sein de l'Assemblée nationale. Une pétition contre le président Christophe Mboso aurait déjà recueilli plus de 130 signatures. Les députés de l'Union sacrée accusent le FCC et dénoncent une manœuvre de ce dernier pour déstabiliser le bon fonctionnement du Parlement afin de l'empêcher à voter la loi électorale nécessaire pour la tenue des élections en 2023. En réaction, le Front commun pour le Congo soutient avoir suspendu sa participation à toute plénière portant examen de la proposition de la loi électorale, car selon lui, le décor d'une fraude électorale à grande échelle est déjà planté. Michel Kifindangoy.
Alors que le président de l'Assemblée nationale a reporté la plénière de jeudi dernier à ce mercredi afin de rechercher un plus grand consensus sur la loi électorale, les députés de l'Union sacrée accusent ceux du FCC de vouloir bloquer le processus électoral de 2023.
Il est hors de question que la loi électorale soit discutée en dehors du Parlement. Nous prenons le peuple à témoin sur l'attitude antidémocratique du FCC qui, à proprement parler, tend à pérenniser la culture du glissement et des dialogues de partage du pouvoir.
En réaction, les députés du FCC dénoncent plutôt une loi taillée sur mesure pour une fraude électorale à grande échelle. André Tamboué.
Nous disons non à une loi taillée sur mesure. Notre rejet de ce débat dans le cadre du débat parlementaire est lié au fait qu'il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale. Tout ce qui a été dicté à l'extérieur nous est imposé et ça passe. Et par conséquent, le consensus doit se dégager déjà dans la composition de la Cour constitutionnelle. Il faut une régularisation, la composition des animateurs de la CENI.
Notez qu'une pétition contre Christophe Mboso, initiée par le député Papi Nyango du FCC, aurait déjà recueilli plus de 125 signatures. Les députés de l'Union sacrée dénoncent cette pétition qui, selon eux, est une stratégie du FCC. C'est pour bloquer l'examen de la loi électorale.
C'est dans ces climats qu'une délégation de la communauté internationale a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Ce dernier a reçu hier une délégation de l'Union africaine représentée par Michel Ndiaye et celle de l'Union européenne avec en tête Guillaume Charten pour échanger justement sur le processus électoral et de la divergence autour de l'examen de la loi électorale. Retrouvons encore une fois Michel Kifindangoy.
À la sortie de l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, le diplomate Guillaume Chartrain a affirmé que la question de la réforme de la loi électorale intéresse au plus haut point l'Union européenne.
Nous suivons les discussions entre les parlementaires sans nous immiscer. Nous sommes prêts à accompagner la RDC dans ses élections en 2023. La mise en place des conditions préalables à leur bonne tenue en 2023 afin de déclencher notre accompagnement en temps voulu. Il y aura un accompagnement de l'Union européenne sur ces élections comme cela a été lors des cycles précédents. Et il sera encore à définir et à déterminer dans les mois à venir.
Pour sa part, la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine souhaite des élections apaisées en 2023. Michel Ndiaye.
Nous avons eu un débat franc sur les difficultés rencontrées. Alors, l'Union africaine souhaite bien sûr des élections apaisées, mais aussi transparentes en 2023. La manière dépendra bien sûr de la volonté de chacun de travailler sur la réforme de la loi électorale. Et ce débat doit avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale sur les différentes propositions qui viennent des différentes parties.
Michel Ndiaye encourage les députés à tenir un débat républicain au sein du Parlement afin d'offrir à la RDC une loi électorale consensuelle et démocratique.
Le successeur d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza au perchoir de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a très bientôt connu. L'élection est prévue pour ce mardi. Les 47 députés provinciaux devront partager les deux candidats retenus pour la circonstance. Jean Gandou pour les détails.
Kate Bengoï Michel et Kenneth Pembamoto sont les deux candidats en lice, le troisième s'étant retiré de la course. Leurs effigies, qui rivalisent de grandeur et de slogans, sont placées ça et là devant le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Au cours de la séance plénière de ce lundi, chacun d'eux a eu droit à 30 minutes de campagne pour convaincre les députés provinciaux en vue de bénéficier de leur suffrage. Kate Bengoï Michel est du regroupement politique AMK. Il est l'élu de Pueto. Depuis la mort d'Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, c'est lui le président de cet organe délibérant à titre intérimaire. Sa candidature est portée par les députés membres de l'Union sacrée pour la nation. Ils prônent la révalorisation de cet organe délibérant qui doit être réellement au service de la population. Son challenger, Kenneth Pembamoto, a été élu dans la circonscription électorale de Kambove. Il est du G7 mais se présente en indépendant. Il n'est pas à sa première tentative d'occuper ce poste. Il l'avait convoité lors de l'avènement de l'Union sacrée et devait être opposé à Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, mais sa candidature avait été invalidée. Il veut que les actions initiées par cette assemblée provinciale ait un impact positif sur le vécu de la population. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Dans l'actualité, notez également le retour hier matin à Kinshasa de Vital Kamerhe. Il avait quitté la capitale congolaise en janvier dernier pour un séjour médical en France. Comme à l'aller, tout s'est fait dans la discrétion. Son assistant personnel et son épouse étaient du voyage. Rappelons que la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel ayant condamné Vital Kamerhe à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics. Elle a également renvoyé le dossier devant les des nouveaux juges. La Cour avait estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense de l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi en rendant sa décision alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Rendons-nous à présent en Ituri. Les FRDC et l'armée ougandaise bombardent depuis lundi matin les positions des rebelles des ADF à Mont Oyo, à moins de 20 km de Komanda Centre, dans les territoires d'Irumu. Des sources de sécurité sur place rapportent qu'il s'agit des opérations militaires conjointes contre ces rebelles qui ont élu domicile dans cette entité. Martial Kizabiamungu.
C'est très tôt le matin, vers 4h locales, que des détonations d'armes lourdes ont été entendues à Komanda Centre et au village Mandibé, Apinzi, Sokotano et Manzombe. Elles se sont poursuivies jusqu'à 7h. Selon des sources sécuritaires, les FRDC, conjointement avec l'armée ougandaise UPDF, ont lancé une offensive contre les bastions des ADF derrière les grottes des Monts Oyo. C'est ici où ces rebelles planifient toutes les attaques contre la population. Les UPDF et les FRDC utilisent les drones armés pour pilonner avec précision les retranchements des ADF, indiquent des sources militaires. Ce qui a créé une psychose parmi la population. Les porte-parole de l'armée à Ituri invitent la population au calme. Cependant, le lieutenant Gilles Ngongo demande à la population de se mettre en liesse car cette région est une zone opérationnelle. Ces opérations interviennent après la réunion samedi dernier à Bounia entre les deux chefs d'état-major, celui des FRDC, le général Célestin Mbala Moussense et son homologue de l'armée ougandaise UPDF, le général Wilson Bandi. Notons qu'à Ituri, la présence des ADF est signalée depuis 2015. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Sachez également que l'Assemblée nationale a procédé hier lundi à une énième prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette nouvelle prorogation est intervenue au cours d'un huis clos sans débat préalable, ce qui a suscité la révolte des élus du Nord Kivu et de l'Ituri qui ont décidé de quitter la salle et de suspendre leur participation aux plénières jusqu'à ce que l'état de siège soit levé. Pour le président du caucus des députés du Nord Kivu, le chef de l'État devrait mettre fin à l'état de siège et envisager d'autres solution beaucoup plus efficace à la place. Le député Singoma Mwanza est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons en tout cas tous salué la décision du chef de l'État de mettre en place l'état de siège qui avait comme objectif de ramener la sécurité et la paix à l'Est. Malheureusement, il est constaté que malgré l'état de siège, nous continuons à déplorer chaque jour des morts dans tous les territoires de nos deux provinces respectives. Et nous nous posons la question, est-ce que réellement l'état de siège pourra mettre fin à cette situation là-bas de massacre que nous avons à l'Est ? bien est-ce qu'il faut se poser d'autres questions pour revenir à d'autres solutions. Et malheureusement, ce que nous constatons aussi concernant l'état de siège, c'est qu'il a basculé plus vers pression fiscale, mobilisation des recettes, etc., plutôt que de vraiment se concentrer sur la sécurité et la paix. Et c'est à cause de cette situation-là que nous avons pris cette décision de ne pas participer à une énième prorogation de l'état de siège et que nous avons décidé, notamment parce qu'on ne nous a pas donné la parole au niveau de huis clos dans le débat, de quitter la salle et même pour les prochaines sessions, nous n'en avons pas participé tant que notre cri n'est pas entendu. C'est le cri de nos populations qui sont tuées là-bas à l'Est.
Énième naufrage peu avant le week-end dernier dans les territoires de Bolomba, province de l'Équateur. Le bilan est de 8 morts, 25 survivants et plusieurs disparus. La Croix-Rouge et les services de l'État ont repêché les corps avant de les enterrer dignement. Mais l'élu provincial de Bolomba, Peter Loposé, interpelle le gouvernement national et provincial afin de doter les services compétents des moyens logistiques, ce qui aiderait à mettre fin à la navigation nocturne, une des principales causes de l'accident. Le point avec Paul Richard.
Le convoi motorisé qui a chaviré sur la rivière Bouki le 14 avril dernier retournait en Bandaka. Il transportait des passagers et des marchandises, embarquait les différents villages de la chefferie de Dianga, territoire de Bolomba. La délégation des agents de l'intérieur et des actions humanitaires, ainsi que des volontaires de la Croix-Rouge dépêchés sur les lieux, a repêché et puis enterré 8 corps, dont 2 enseignants. Le bilan provisoire fait également état de 25 rescapés et de plusieurs disparus. À la base de cet accident, ont évoqué des témoins, la surcharge et la navigation nocturne, pourtant interdite par l'autorité provinciale. Le député provincial de Bolomba, qui a facilité l'envoi de la délégation mixte ce week-end, plaide pour une assistance aux victimes. Peter Lopos exige aussi l'équipement des services compétents en vue d'empêcher la navigation nocturne aux embarcations de fortune.
L'Équateur est abandonné parce que nous connaissons beaucoup de cas. Pourquoi l'assistance seulement pour les autres provinces? Aujourd'hui, j'ai saisi le ministère national des actions humanitaires et affaires sociales. Aucune réaction positive. Les gouvernements nationaux, les gouvernements provinciaux, ils doivent faire un effort de venir en aide d'abord pour les gens qui pleurent aujourd'hui, 8 personnes, ainsi que de doter les services commis par-ci par-là avec les enjeux et tout ce qui est nécessaire pour la surveillance et faire proprement le travail.
Bon, d'accord, pour Chamalingué, la radio Okapi.
Dans la province de Latchopo, 2 semaines après avoir lancé l'opération d'identification des maisons relevant de son patrimoine, la mairie de la ville de Kisangani fait un constat malheureux. D'un côté, des parcelles ont été créées anarchiquement, dont certaines résidences. De l'autre, ce sont des maisons occupées par des personnes ayant signé des contrats avec des inconnus de la mairie, des gens inconnus de la mairie. Le maire de la ville de Kisangani, Jean-Louis Alasso, dit avoir saisi les instance judiciaire compétente pour tirer les choses au clair. Jacques Moukonkolé nous fait le point.
Au centre-ville de Kisangani, non loin de la 2e, l'espace vide de la résidence de l'adjoint au maire de la ville a donné lieu à cette parcelle déjà bornée par des inconnus. Jean-Louis Alasso explique.
Dans la résidence officielle du maire adjoint de la ville, j'ai trouvé que dans la parcelle, il y a des gens qui ont créé environ 7 parcelles vers Météo. Il y a 6 parcelles qui ont été créées en dehors de parcelles qui ont déjà été vendues il y a des années.
Au quartier Plateau Boyoma, 8 villas appartenant à la mairie sont passées sous d'autres mains. Jean-Louis Alasso dit avoir exigé des documents des propriétés aux occupants trouvés sur les lieux.
Le plateau Boyoma, il y a 8 maisons dont 5 sont déjà dans les clôtures. Et nous ne connaissons pas les gens qui ont érigé les clôtures dans ces maisons. Les 3 autres qui sont en dehors des clôtures, il y a des locataires qui sont là, qui disent qu'ils ont signé un contrat avec un certain Douga.
Au quartier artisanal, les 6 maisons identifiées sont occupées par des fonctionnaires de l'État. Ces derniers devront signer un document reconnaissant leur appartenance au patrimoine de la mairie. Entre-temps, le maire de la ville prévient la population sur le risque encouru en achetant une parcelle ou un terrain appartenant à la mairie. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. La Russie, pays les plus sanctionnés au monde devant la Syrie et l'Iran, mais ces sanctions affaiblissent les Occidentaux, selon Vladimir Poutine. Dans son discours sur l'état de l'économie russe, hier lundi, le président russe a ajouté que l'inflation dans son pays était en train de se stabiliser et que la demande était revenue à la normale.
L'invité.
Comment les technologies spatiales peuvent être au service du développement durable? Pour répondre à cette problématique, nous recevons dans cette édition l'astronome sénégalais Maram Kerr, l'un des orateurs de la 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies qui s'est ouverte hier ici à Kinshasa. Il répond aux questions de Jacques-Yves Molima.
Monsieur Maram, bonjour.
Bonjour.
Comment, d'après vous, les technologies spatiales peuvent être au service du développement durable?
Mais écoutez, dans un premier temps, je pense que c'est d'abord comprendre comment aujourd'hui cette technologie elle est accessible pour les Africains. Il y a très longtemps, on a pensé en fait que la technologie spatiale était réservée aux pays occidentaux, du fait en fait du coût un peu élevé de ces technologies. Mais depuis quelques années, en fait, les universitaires américains ont développé des systèmes de satellites qui sont très petits, miniaturisés, qu'on appelle les CubeSat. Et ces CubeSat permettent aujourd'hui à des pays, par exemple, en voie de développement, de pouvoir accéder à ces technologies. Maintenant, si la technologie, on comprend qu'elle est accessible, il faut savoir quelle utilité on peut faire avec. L'Afrique est confrontée à des problèmes que nous connaissons, qui sont là au quotidien. On a besoin de surveiller nos frontières, on a besoin de surveiller nos ressources énergétiques, maritimes, ainsi de suite. Nous avons besoin d'une éducation de qualité. Nous avons besoin d'avoir une agriculture qui est productive, qui ne dépend plus des saisons des pluies, mais qui puisse anticiper sur les aléas climatiques, ainsi de suite. Et tous ces éléments dont on parle aujourd'hui peuvent trouver des solutions. La navigation, la circulation dans les villes, ce qu'on appelle les smart cities, des villes connectées. Tout cela trouve une réponse dans l'utilisation et l'exploitation des données issues des satellites. Et si nous prenons la carte de ce qu'on appelle aujourd'hui les objectifs de développement durable, qui est aussi notre feuille de route, nous constatons que les pays qui sont les plus avancés dans l'utilisation des satellites sont les plus avancés également dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc l'Afrique qui prend le train un peu en retard, parce que nous sommes à très peu de pays qui disposent de leur agence spatiale, très peu de pays qui ont leurs propres satellites, mais nous sommes conscients qu'en utilisant cette technologie-là, on arrive à atteindre les objectifs plus rapidement, comme le font les pays qui sont aujourd'hui dans l'industrie spatiale.
Oui, lors de votre speech, vous avez souligné votre crainte de voir que l'Afrique est en marge des révolutions passées et même à venir. Pourquoi cette crainte?
Mais écoutez, parce que, comme je le disais tout de suite, dans un premier temps, les Africains ont toujours pensé en fait que nos problèmes de santé, d'accès à l'eau, d'électricité, ainsi de suite, ne faisaient pas appel à la technologie spatiale. Ils ont toujours pensé que cette technologie spatiale est réservé à l'Occident et que nous avions des problèmes plus importants. C'est maintenant qu'on commence à réaliser que le spatial peut nous aider à résoudre ces problèmes. Maintenant, la crainte, bien entendu, c'est qu'il y a des révolutions qui ont changé ce monde, la révolution industrielle qui s'est déroulée, la révolution de l'électronique. Aujourd'hui, tout ce que nous utilisons, ce sont des composants électroniques qui le permettent. Toutes ces révolutions ont mis l'Afrique vraiment en marche. Si je prends le cas de la révolution électronique, très peu de composants, que ce soit des téléphones, que ce soit des téléviseurs, très peu sont fabriqués sur le continent. Et pourtant, les ressources qui permettent d'arriver à la fabrication de ces objets viennent du sous-sol africain. Donc, aujourd'hui, nous sommes en plein dans la révolution du numérique. C'est le contenu qui est important. Nous devons faire en sorte que l'Afrique ne rate pas cette révolution. Mais l'autre constat, c'est que en fixant des objectifs de développement durable au monde entier, on se rend compte que les pays utilisent le spatial pour atteindre ces objectifs. Donc, ça veut dire en fait que la prochaine révolution qui nous attend et qui a déjà démarré, c'est la révolution du spatial. Pourquoi l'Afrique, après ces trois premières révolutions dont on a parlé, devrait rater le spatial? C'est pour ça aujourd'hui que nous avons cette crainte de se dire, est-ce que nous saurons anticiper le plus rapidement possible sur la nécessité de nous baser sur le spatial pour nous développer?
Alors comment entrevoyez-vous le futur de l'Afrique?
Écoutez, on voit ça avec beaucoup d'optimisme sur deux ou trois aspects. Le premier, en fait, c'est que le réveil est en train de se faire. Les pays africains ont compris le retard et c'est pour ça qu'on a eu une quarantaine de lancements de satellites dans les 20 dernières années. Et aujourd'hui, les projets qui sont en cours nous laissent entrevoir qu'on devrait être autour de 120 satellites d'ici les 10 prochaines années. Donc ça veut dire que le réveil se fait. Mais l'autre point, en fait, qui est important, c'est que les jeunes sont de plus en plus intéressés par le spatial. Il y a un temps, ils ne comprenaient pas peut-être, où il n'y avait pas suffisamment de vulgarisation. Donc nous avons espoir. Cet avenir, on le voit vraiment radieux, on le voit un avenir dans le spatial, mais il faudrait que la constante qui est aujourd'hui en évolution que nous avons puisse être maintenue. Il ne faut pas qu'on soit en retard et il ne faut pas qu'on recule. On est sur une bonne dynamique, mais il faut en tout cas investir massivement dans le développement du spatial.
Monsieur Maram, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Jacques-Yves, merci également à votre invité. Et notez que ce mardi, il est prévu le village des sciences, toujours au musée national. Et nous notons enfin que Youssouf Moulumbu, ancien capitaine des Léopards de la RDC, est l'ambassadeur de cette édition. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.